7-9 de Matin Première.
Et à 7h46, on va prendre un petit quart d'heure pour vous expliquer, tenter de comprendre les raisons qui poussent juifs et arabes à se remettre dans l'escalade de la violence au Proche-Orient, en Israël, dans la bande de Gaza, avec notre invité ce matin, Bichra Kader. Bonjour.
Bonjour.
La nuit a été encore très agitée entre Israël, Gaza. Cette nuit, on va en discuter avec vous, mais tout d'abord, on va rejoindre notre correspondante à Jérusalem, Daniel Kriegel. Les combats, Daniel, se sont poursuivis entre le Hamas et l'armée israélienne. Et ce n'est pas tout, hein. Il y a un second front qui s'est ouvert en Israël même. On peut faire le point avec vous sur la situation ce matin, Daniel.
Eh bien, l'aviation et l'artillerie israélienne ont procédé durant toute la nuit à des bombardements d'une intensité sans précédent à Gaza. Les vitres en tremblaient à Sderot, la ville israélienne proche de la frontière. Le Hamas et le djihad ont riposté par des salves importantes de roquettes sur le sud et le centre d'Israël. Deux civils israéliens ont été sérieusement blessés. Il y a eu aussi et surtout des roquettes tirées en direction de l'aéroport international Ben Gurion, près de Tel Aviv. Par sécurité, la plupart des compagnies aériennes étrangères ont suspendu leur vol vers Israël. El Al, le transporteur national, est donc le seul à assurer les liaisons aériennes entre Israël et le monde extérieur. Ces avions commencent à atterrir sur l'aéroport de Timna Ramon, près d'Elat, dans le sud du pays. Mais le Hamas a commencé à tirer quelques missiles dans cette direction.
Daniel, est-ce qu'il est question d'une opération terrestre que pourrait déclencher l'armée israélienne dans Gaza ?
Eh bien, durant la nuit, le porte-parole de l'armée a publié un communiqué ambigu annonçant que les forces de Tsahal opéraient par les airs et au sol. Un certain nombre de médias étrangers ont compris qu'une opération terrestre était en cours. Cela a été démenti. Et de fait, des unités supplémentaires de blindés, d'artillerie et d'infanterie sont déployées le long de la frontière avec Gaza. Et pour l'heure, l'état-major n'a pas encore le feu vert de l'échelon politique, donc pour cette opération terrestre. En attendant, nous venons de le voir, l'armée de l'air continue à bombarder Gaza, visant les logements privés de responsables militaires et politiques des organisations islamistes. Un général israélien a même déclaré sur une chaîne de télévision « Lorsqu'ils sortiront de leur bunker, ils n'auront pas où habiter ». Et selon un bilan du ministère de la Santé de Gaza, 113 Gazaouis, dont 32 enfants, ont été tués depuis lundi.
Daniel Kriegel, sur le front intérieur, est-ce que les affrontements intercommunautaires entre juifs et arabes se poursuivent ?
Oui, oui, à Jaffa, le quartier mixte de Tel Aviv, un soldat en uniforme a été lynché par des Arabes israéliens. Il est hospitalisé dans un état grave. À Lod, à l'est de Tel Aviv, l'atmosphère est toujours extrêmement tendue. La police a déployé des forces très importantes pour tenter, d'ailleurs pas toujours avec succès, de faire respecter le couvre-feu. Un exemple, cette scène, des centaines d'Arabes israéliens se trouvent sur le toit et devant une mosquée qu'ils veulent défendre face à des extrémistes juifs qui se trouvent dans la rue. Un cordon de garde-frontière les sépare. À ce propos, et selon une chaîne de télé israélienne, les responsables de la police ont accusé le député Itamar Ben-Gvir, le chef du parti raciste Otzma Yehoudit, puissance juive en français, d'inciter et d'organiser une intifada juive. Ils ont demandé à Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, d'intervenir pour que ça cesse.
Voilà, pour les faits, les événements de ces dernières heures avec notre correspondante Daniel Kriegel à Jérusalem. Merci Daniel Kriegel. Bichra Kader, vous êtes professeur émérite à l'UC Louvain, spécialiste du monde arabe. Peut-être revenir avec vous tout d'abord sur cette intervention de l'armée terrestre d'Israël dans la bande de Gaza. Elle a été évoquée, puis démentie. Ça aurait quel impact, une intervention terrestre dans la bande de Gaza ? On basculerait dans une guerre plus longue ?
Écoutez, ce n'est pas la première fois depuis 2007 que les offensives israéliennes sont menées dans la bande de Gaza. Pour rappel, la bande de Gaza, c'est 365 km². C'est 2 millions d'habitants. Donc, lorsque le Hamas a pris le contrôle de Gaza en 2007, les Israéliens ont lancé une première offensive en 2008. En 2012, en 2014, et d'ailleurs il y a une enquête de la Cour pénale internationale pour justement enquêter sur les crimes de guerre israéliens dans la bande de Gaza, et maintenant en 2021, une offensive d'abord aérienne et puis peut-être une offensive terrestre, mais je crois que les Israéliens seraient imprudents de lancer une offensive terrestre qui pourrait produire des dizaines de milliers de morts, car la bande de Gaza est tellement exiguë et la population tellement, une densité de population supérieure à celle de Hong Kong. C'est la densité de population la plus importante au monde.
Mmh. On parle donc, beaucoup des roquettes tirées par le Hamas depuis la bande de Gaza. Environ 1500 roquettes sur les villes du sud d'Israël, selon le décompte de l'État israélien. Des roquettes qui ont fait cette mort dans le camp israélien. Elles viennent d'où, ces roquettes qui arme le Hamas, finalement, Bichar Akader?
Les Palestiniens ont essayé depuis 50 ans toutes les formes de résistance à l'occupation israélienne. Car pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, il faut revenir au contexte général. 1967, les Israéliens occupent la Cisjordanie et la bande de Gaza. Cette occupation est récusée par la communauté internationale. De nombreuses résolutions des Nations Unies réclament à Israël la fin de l'occupation, dénonce l'illégalité de la colonisation, car cette occupation israélienne s'est doublée d'une colonisation. Les Palestiniens ont lancé une première intifada, un premier soulèvement pacifique en 1987. Ce soulèvement a duré 7 ans. Elle a fait plusieurs milliers de morts parmi les Palestiniens. Elle a abouti sur les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo étaient censés permettre la création en 1999 d'un État palestinien indépendant sur les territoires qu'occupe Israël. Or, pendant que les négociateurs internationaux négociaient la mise en application des accords d'Oslo, Israël poursuivait de manière inexorable l'annexion rampante et la colonisation des territoires palestiniens, y compris Jérusalem-Est, de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a près de 700 000 colons israéliens dans ce petit territoire qu'est la Cisjordanie et Jérusalem-Est, dont 250 000 colons à Jérusalem-Est pour noyer la population palestinienne. En 2000, Sharon va à l'esplanade des mosquées, provoque les musulmans et suscite la deuxième intifada qui est plus militarisée.
Ce que vous êtes en train de dire, Bichar Akader, c'est la politique de colonisation d'Israël qui met à chaque fois le feu aux poudres, si je vous comprends bien, c'est ce que vous dites ce matin?
C'est ce que je dis, c'est ce que dit la communauté internationale, c'est ce que disent les dirigeants européens, c'est ce que dit la communauté internationale. On ne peut pas discuter d'une chevauchée militaire comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui, sans revenir au contexte général. Et j'ai souvent dit que la région du Proche-Orient et de la Palestine en particulier ressemble à un champ de broussailles asséchées qui n'attend qu'une mèche pour s'embraser. Or, la mèche est arrivée ces derniers temps par deux choses. Un, la volonté d'évincer ou de déloger des habitants palestiniens d'un quartier de Jérusalem que je connais fort bien, par des colons israéliens, dans une politique générale de purification ethnique à l'intérieur de Jérusalem, Jérusalem-Est. Et deuxièmement, l'intervention musclée de la police israélienne sur l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint de l'islam, provoquant alors une flambée de colère à la fois dans le peuple palestinien et parmi les Palestiniens qui sont aujourd'hui citoyens d'Israël. D'où cette volonté de Hamas de riposter par des tirs de roquettes conduisant Israël à bombarder aujourd'hui massivement la bande de Gaza.
Mais qui a intérêt à entretenir ce conflit, Bichar Akader? Qui a intérêt à entretenir la politique du pire? Est-ce que le Hamas joue aussi un rôle, en d'autres termes? Parce que vous parlez beaucoup de la colonisation israélienne. Le Hamas entretient lui aussi la politique du pire, oui ou non, Bichar Akader?
Non, je crois que la stratégie des acteurs, ça c'est un débat très intéressant. Il est clair que Benjamin Netanyahu, qui aujourd'hui a le dos contre le mur, qui n'a pas réussi à former un gouvernement israélien après 4 élections successives, se présente aujourd'hui comme un chef de guerre, essaie d'instrumentaliser la violence actuelle à son profit, pour, dans l'espoir de pouvoir reformer un gouvernement. Il est clair que le Hamas a été détroussé d'une victoire annoncée dans les élections palestiniennes qui ont été annulées par le président Abbas. Et donc, il y a la stratégie des acteurs est ainsi. D'un côté, ça sert la politique de Benjamin Netanyahu qui se présente aujourd'hui comme un chef de guerre, alors que le président israélien a chargé Lapid de former un gouvernement pour le 2 juin. Et je ne crois pas que ce gouvernement va voir le jour. Tandis que le Hamas, évidemment, veut montrer aux Palestiniens qu'il est la seule force de résistance à l'occupation israélienne, accusant l'autorité palestinienne d'apathie et de paralysie.
Si je vous comprends bien, Bichara Kader, la solution, elle ne peut pas venir des acteurs que vous venez d'évoquer, elle ne peut pas venir de l'intérieur, elle doit obligatoirement venir de l'extérieur. De qui peut-elle venir, cette solution, la désescalade ?
Il faut un sursaut éthique à l'intérieur d'Israël pour refuser d'abord dénoncer l'occupation et la colonisation. Et je crois qu'il y a de nombreuses voix juives, de nombreux intellectuels juifs qui aujourd'hui se dressent contre la politique de la colonisation.
Ça, c'était dans un deuxième temps, Bichara Kader. Mais qui peut mettre fin aujourd'hui à la violence ?
80% des Palestiniens veulent une paix, c'est-à-dire veulent un État palestinien vivant côte à côte avec l'État d'Israël, en paix, en sécurité. Mais on ne peut pas constamment parler de la paix, de la sécurité pour Israël, et d'oublier la dignité, les humiliations incessantes que subissent les Palestiniens depuis 50 ans. Deux générations de Palestiniens n'ont connu que l'occupation israélienne. Donc il faut en mettre un terme, comme le disait d'ailleurs le communiqué de la Commission européenne, comme le disait d'ailleurs un porte-parole de la Maison-Blanche. Bien sûr, il faut la sécurité pour Israël, mais Israël ne peut pas avoir la paix, la sécurité et les territoires.
La solution peut venir de Washington, Bichara Kader, elle peut venir de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, ça peut changer la donne.
Joe Biden a raté le premier test de politique étrangère. Joe Biden est un ami de Benjamin Netanyahu. Sa méthode est différente de celle de Trump. Mais je crois que la politique de Trump a été une des raisons principales de cette flambée de violence dans les territoires palestiniens. Car Trump a bouleversé toutes les règles du jeu, d'abord en transférant l'ambassade américaine à Jérusalem, deux, en donnant son aval à l'annexion israélienne de toute la vallée du Jourdain, qui est le panier à pain du peuple palestinien, et en même temps en fermant le bureau de l'autorité palestinienne à Washington. Donc, la responsabilité de l'administration américaine de Trump est importante. Je crois que Biden peut prouver maintenant que l'Amérique s'oriente différemment. Mais j'ai vu que dans les négociations au Conseil de sécurité, l'Amérique a refusé de signer un communiqué commun.
Bichara Kader, la solution au Proche-Orient, c'est définitivement la reconnaissance de deux États israéliens et palestiniens, ça en est où ?
Je crois que l'Union européenne n'a de cesse de répéter qu'elle soutient les deux États, un État palestinien, un État israélien. Et elle n'a de cesse de rappeler que la colonisation israélienne est illégale, que l'annexion de Jérusalem est illégale, donc que l'Europe applique ce qu'elle dit. Aujourd'hui, l'Europe, sur le plan déclaratoire, a une position impeccable, mais sur le plan opératoire, la position européenne est paralysée.
Pourquoi, à votre avis, Michel?
Par les divisions à l'intérieur des pays européens. Il y a des pays européens qui soutiennent la position israélienne outrancière de Benjamin Netanyahu contre vents et marées, et par les divisions entre le Parlement, la Commission et le Conseil, et troisièmement par le fait que l'Europe est un géant économique et malheureusement son rôle géopolitique laisse beaucoup à désirer.
Merci beaucoup Bichara Kader pour votre regard sur ce conflit qui s'embrase à nouveau au Proche-Orient, professeur émérite à l'UC Louvain et spécialiste du monde arabe. Merci Bichara Kader.